Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Alors, le DevOps, c'est la coopération entre les devs et les ops, et de manière générale, la coopération dans une entreprise. Et pour ça, il faut partager une culture commune, puisque la culture, c'est un des piliers DevOps. Mais surtout, il faut que l'ambiance de l'entreprise s'y prête. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Radio DevOps, l'émission qui parle en profondeur d'un sujet particulier. Et aujourd'hui, on va parler du savoir-être en entreprise. Nous sommes suivis et écoutés par beaucoup de novices, je le sais. Sur Twitter et sur LinkedIn aussi, vous êtes nombreux à me le dire. C'est pour ça que l'on partage parfois notre expérience sur des sujets un peu transverses. Et aujourd'hui, en fait, on va parler justement dans ce podcast en mode table ronde du comportement à adopter en entreprise. On va partager des anecdotes, on va balayer plein de sujets. L'idée, c'est de parler de l'ambiance d'une entreprise et dans ce qu'on a vu et de ce qu'on ne devrait pas faire en entreprise, et de ce qu'on peut faire en entreprise. Et on va essayer, tu vas le voir, de lier ça au mouvement DevOps un petit peu. Alors, pour en parler avec moi, autour de la table virtuelle, j'ai René. Bonsoir, René.
Bonsoir, Christophe. Bonsoir à toutes et tous.
Et on a aussi Erwan.
Bonsoir.
Et enfin, Nicolas. Bonsoir, Nicolas.
Salut tout le monde.
Alors oui, je dis bonsoir, même si ce podcast il sort le matin, c'est parce que pour nous, c'est le soir. C'est pour ça. Alors, justement, ça commence mal dès l'embauche. Je vais vous raconter une anecdote pour commencer l'épisode du podcast. Justement, c'est une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois maintenant, et c'est cette anecdote qui a justement poussé René à nous proposer ce sujet-là que j'ai saisi au bon. Alors cette anecdote, en fait, il s'avère que chez l'Hydra, on a recruté pas mal d'alternants cette année, puisque en fait, on est arrivé à la fin de certaines alternances et du coup, on a voulu renouveler les embauches, mais les personnes voulaient changer de domaine, donc du coup, on n'a pas pu les rembaucher. Donc on est passé de 4 à 6 personnes. Et en fait, il s'avère qu'on cherchait une assistante de direction, quelqu'un pour nous aider à diriger l'entreprise et la start-up qu'on va créer. Donc, on prend une personne en alternance en master, master 1, master 2, qui va sortir en bac plus 5 et on espère pouvoir l'embaucher dans la future entreprise qu'on va créer. Et ça fait partie de la mission de la personne de nous aider à créer cette entreprise, d'obtenir des subventions, etc. J'en parle dans ma chaîne secondaire sur la start-up coopérative, mais l'objet n'est pas là. Donc, on rencontre des personnes et on trouve la personne idéale, celle qui nous convient, puisqu'en même pas une semaine, en fait, on a fait les trois rendez-vous d'embauche, en fait, puisqu'on a trois rendez-vous. Un d'abord avec moi, un avec mon associé et un avec l'équipe. Et tout se passe super bien, la personne elle colle parfaitement, elle a déjà fait du podcast en plus, tout se passe bien, on va pour l'embaucher, là on est au mois de juin, on valide son embauche, on lui dit, on lui envoie un mail, on lui dit bah voilà, si tu veux travailler avec nous, il n'y a pas de souci, le poste il est pour toi, la personne nous répond, elle nous dit ok, je travaillerai avec vous. Et en fait on commence à échanger les documents légaux, la carte d'identité, le RIB, les informations, ce que nous on appelle les données sociales, donc personne à prévenir en cas d'urgence, numéro de téléphone, adresse, etc. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour embaucher la personne, y compris le CERFA, puisque là on parle d'une alternante, et donc il faut un CERFA, donc c'est le contrat de travail en gros, pour faire simple. Puis on avait décidé de l'embaucher au 1er août, donc ça nous laissait plus d'un mois en fait pour faire tout le travail, et en fait on arrive la semaine avant, et puis on n'a toujours pas le CERFA, on commence à s'inquiéter, on lui demande, on demande à l'école, et en fait il s'avère qu'en fait la personne elle est sous contrat, elle nous l'avait pas dit, puisqu'on savait qu'elle changeait d'entreprise, puisqu'on embauchait en Master 2 et pas en Master 1, mais par contre ce qu'on savait pas, c'est qu'elle avait pas négocié avec son entreprise, ou alors que ça s'était mal passé. Je vous la fais courte, en fait il s'avère que l'entreprise avec qui elle était, ça se passait très mal. Elle avait du mal à obtenir le licenciement pour pouvoir être réembauchée par une autre entreprise. Et du coup, on ne pouvait pas obtenir le CERFA. Ça se passe la semaine où elle doit arriver. Et donc, on voit avec son école, on ne voit pas avec son ancienne entreprise parce que ce serait vraiment délicat. Et on arrive à obtenir le CERFA de l'organisme qui édite les CERFA. Donc nous, on le signe, on l'envoie à la personne, on l'envoie à l'école, et on lui dit, écoute, si tu veux, tu peux commencer demain, puisqu'on était déjà plus d'une semaine après la date d'embauche prévue, et on n'a pas de nouvelles. On l'appelle le lendemain après lui avoir écrit, et on n'a pas de nouvelles. Donc c'était mon assistante de l'époque qui appelait tous les jours, elle lui envoyait un mail tous les jours, et au bout de 3 jours on se dit, mais il y a un truc qui va pas quand même, c'est pas normal que quelqu'un nous réponde pas. Et donc moi je l'appelle, pareil, j'ai pas de réponse, en fait je tombe sur son répondeur, donc du coup on s'inquiète très fortement, parce que nous on est une entreprise en remote, donc on sait que quand quelqu'un répond pas, on se doute, la première chose, c'est qu'il lui arrivait un truc. Donc, on essaye de savoir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, etc. Sauf qu'au bout de, je ne sais pas, je crois, 4-5 jours, on commence à se dire, il y a un truc qui ne va pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la personne à prévenir en cas d'urgence, parce qu'on se dit, il lui arrivait un truc. En plus, il s'était passé, en fait, on lui avait envoyé le CERFA un vendredi, et en fait, il y avait eu un week-end, et on s'est dit, peut-être qu'il s'est passé un truc. Moi dans ma tête il y a plein de trucs qui se passent, je me dis, il lui arrive un accident, elle a subi des pressions psychologiques, je ne sais pas, elle a été enlevée, c'était tout qui passait dans ma tête, parce qu'à partir du moment où quelqu'un qui veut travailler avec toi fait toutes les démarches, t'envoie tout, ne donne plus de nouvelles d'un coup, tu te dis, il lui arrive un truc. On arrive à obtenir sa personne à prévenir en cas d'urgence, qui est sa mère, et en fait sa mère nous dit, mais non, je comprends pas, tout va bien, elle va bien, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas travailler avec vous, je ne sais pas. Et on lui demande, dans ce cas-là, de nous prévenir, enfin de prévenir la personne, de lui dire que tout est prêt et qu'elle peut nous appeler, il n'y a pas de problème. Et à partir de ce moment-là, rien en fait, il n'y a rien qui se passe. Juste, on n'a plus de nouvelles du tout. Elle ne répond pas ni à nos textos, ni à nos messages, ni à rien. Donc, au final, on s'est fait ghoster. J'ai appris comme ça que ça se passait dans le monde professionnel. Je ne pensais que c'était qu'un truc qui se passait entre personnes qui voulaient sortir ensemble, mais je ne savais pas que ça se passait dans le monde professionnel, que des personnes qui veulent se faire embaucher te ghost au moment de signer ton entretien. Et du coup, mon anecdote s'arrête là, parce que après on va parler des conséquences. Et en fait, en préparant l'émission, Nicolas m'a dit que ça lui est arrivé. Donc, je vais te laisser la parole. Peut-être tu vas nous raconter ta petite anecdote. Et après, on va pouvoir dérouler les conséquences pour l'entreprise et les conséquences potentielles de la personne qui ghost aussi.
Alors effectivement, moi dans ma boîte, donc CGWire, on est une petite entreprise, donc aujourd'hui on est 4 salariés, 4 personnes à travailler, 2 associés et 2 salariés, donc on est 4, et on cherchait une personne pour faire une alternance chez nous, donc nous c'était une première année de licence je crois, plutôt orienté marketing, on voulait une personne qui nous faisait la partie commerciale. Donc c'est vrai qu'on s'y était pris un petit peu en retard et on avait envoyé les demandes courant d'été pour l'alternance. Et on passe quelques entretiens, il y a une personne qui retient notre attention, visiblement c'était partagé puisqu'elle nous dit qu'elle est intéressée et elle devait commencer un lundi ou un mardi, je ne sais plus, et le jour J où elle devait venir pour effectivement remplir toute la paperasse, enfin venir, comme toi on est en full remote, donc venir c'est à une visioconférence. Et là, pas de nouvelles. Donc, c'est un petit peu comme toi, on commence à s'inquiéter. Et comme j'avais lu ton histoire quelques semaines avant, je raconte ça à tout le monde. Et donc, on fait le raccourci. C'est effectivement, il nous est arrivé la même chose. Donc, on s'est retrouvé le bec dans l'eau puisqu'on n'a plus personne. Donc, on va parler des conséquences tout à l'heure. Après, nous, on n'a jamais su ce qui s'était passé parce qu'on n'avait pas de personne à contacter, machin, etc. Et je pense qu'on ne saura jamais pourquoi cette personne-là n'est pas venue. Voilà.
Non, mais je te rassure, nous, on n'a pas rappelé la personne à prévenir en cas d'urgence pour avoir le fameux de l'histoire. Enfin, je veux dire, on l'a appelé deux fois et ça ne servait à rien, tout simplement. Alors...
Oui, mais nous, toi, tu sais qu'elle n'est pas enfermée dans une cave. Nous, ouais. On ne sait pas.
Oui, voilà, c'est ça. Nous, on sait qu'elle n'est pas enfermée dans une cave. Au moins, elle va bien. C'est la bonne chose dans l'histoire. Mais vous ne savez pas. C'est parce que vous n'aviez pas les contacts à prévenir en cas d'urgence, peut-être.
Voilà.
Nous, on demande tout à l'avance. Et en plus, nous, on est en remote. Mais ce que je n'ai pas dit dans mon anecdote, c'est que j'avais réservé un espace de coworking pour l'accueillir pendant 15 jours. Que ça a engendré des frais. Donc, du coup, les conséquences pour l'entreprise, déjà, il y a eu des frais, puisque, on est allé à l'espace de coworking pour accueillir quelqu'un qui n'est jamais venu. Premier frais. Deuxième chose, la personne, elle n'était pas là. Du coup, on n'a pas pu discuter avec elle et mon ancienne alternante pour se faire passer tous les trois les sujets à se transmettre. Donc bon, moi je savais quel sujet il y avait, mais ça aurait été sympa justement qu'elles s'échangent leurs tips, etc. Parce que moi j'ai des tips, mais c'est pas les mêmes que la personne qui nous rejoint. La conséquence pour l'entreprise, et c'est souvent le cas, notamment les petites entreprises, parce que nous aussi on est petits, c'est que on perd un temps fou à recruter quelqu'un, puisque nous on voulait recruter cette personne, on avait déjà vu trois personnes sur ce poste-là. Du coup, on arrive mi-août sans personne, alors qu'en fait, on s'y était pris dès le mois de mai, je crois. Et donc, catastrophe, on est obligé de relancer un recrutement, puisque évidemment, toutes les personnes qui étaient en shortlist, elles ont trouvé une alternance depuis, elles se sont fait embaucher. Et donc là, ça a été compliqué pour trouver une nouvelle personne. Heureusement, on a trouvé une nouvelle personne qui convient parfaitement. Néanmoins, c'était compliqué parce qu'il a fallu qu'on relance un process de recrutement, qu'on rencontre des gens, c'est long, et du coup, ça nous a vraiment ralenti, pour le coup, et ça a un impact financier non négligeable pour des petites sociétés comme les nôtres. Pour les grosses, je ne sais pas, pour les petites, ça a un impact, et puis c'est, je ne sais pas comment tu l'as vécu toi, mais ça nous fragilise en tant que recruteur, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai raté ? Pour qu'elles ne veulent pas venir travailler avec moi, mais surtout qu'elles ne veuillent pas me dire qu'elle ne vient pas, cette personne, parce que là, pour le coup, la personne, elle est harcelée de messages, de textos, de coups de fil, de mails, parce que et elle voit bien qu'on est inquiet. Moi, j'ai laissé un message super inquiet sur sa messagerie, et pourquoi la personne ne nous dit pas que, tout simplement, non, ça ne l'intéresse plus. Je ne sais pas. Donc, c'est hyper fragilisant, je trouve, en tant que recruteur. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, Nicolas.
Si je remets le micro, ça marche mieux. Déjà, je n'étais pas le recruteur. Hein. C'est les associés qui ont géré cette partie-là. C'était sur la partie commerciale, donc je suis encore moins concerné. Mais dans une petite boîte de 4, forcément, on discute et voilà. Après, nous, on ne s'est pas forcément remis en question parce que, a priori, on est quand même réglo sur les recrutements. On est plutôt une boîte cool où on est totalement transparent avec les gens, on essaye de les rémunérer à la juste valeur, on essaye de leur trouver des missions intéressantes. On ne fait pas venir des gens pour leur faire faire du café et des photocopies, puisqu'on n'a pas de machine à café ni de photocopieuse. Et on essaye de trouver des trucs intéressants à faire. On ne prend pas des stagiaires pour leur faire faire les trucs pourris non plus. Donc, de ce côté-là, je pense que ce n'était pas ça. Par contre, oui, effectivement, pour les conséquences, c'est le temps perdu. Nous, c'était moins critique parce que c'était un poste bonus sur lequel on voulait recruter une personne et on aurait été très content que cette personne puisse venir et faire cette partie du boulot. Après, c'est la boîte, elle va continuer à tourner sans cette personne-là. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, on est deux autour de la table à en parler, mais c'est a priori, ça commence à être de plus en plus courant. Et c'est depuis toute la vague de Covid qu'il y a eu, et a priori, c'est plutôt les jeunes qui font ça, qui ont une manière de voir le monde du travail qui est totalement en déphasage avec ce que nous, on a pu connaître. Moi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de ne pas prévenir l'entreprise que je ne viendrai pas. Et même dans le pire des cas, si on n'a pas le temps de prévenir, si on n'a pas envie de les prévenir, au bout d'un moment, s'ils appellent, tu réponds, tu dis bah non, je ne viens pas. Et puis après, tu n'es pas obligé de motiver le pourquoi. C'est toujours mieux de le faire, mais c'est ne serait-ce que d'expliquer, enfin ne serait-ce que de notifier, c'est non, je ne viendrai pas. C'est un minimum de correction à avoir. Et moi, c'est ce qui me dépasse un petit peu, c'est je ne comprends pas. Et mes enfants sont pas encore assez grands pour arriver dans cette position-là. Ainsi, parce que les miens sont assez grands pour faire de l'alternance. Mais en tout cas, j'en ai pas entendu parler dans leur entourage. Donc, j'ai pas pu en discuter avec eux non plus de pourquoi on en arrive là. Quoi.
Ouais, moi non plus, ça reste un mystère. Je ne sais pas dans quelle mesure tu te dis pas à un moment donné, je m'en fous, je vais envoyer un texto. Même pas un mail, un texto, je dis, mais non. Je viens pas. Et puis c'est tout. Alors après, certains employeurs vont essayer de chercher à comprendre pourquoi, mais on n'est pas dans le même cas. Et pour la personne qui ghost, ça peut aussi avoir des conséquences, déjà pour la réputation, parce que ça peut se savoir. Soit les personnes, elles parlent, parce que nous, on est dans une petite ville, enfin, on est dans une ville, c'est Saint-Etienne, c'est pas une petite ville, mais je veux dire, dans les boîtes de la tech, on parle entre nous. Rennes, toi, t'es à Rennes, c'est pareil, c'est une ville, donc ça se sait. Et puis aussi, si tu es dans cet état d'esprit-là, que tu veux ghoster tes employeurs, il faut t'assurer que tu aies une employabilité énorme, parce que vraiment, à un moment donné, si tu considères que tes employeurs, tu peux les ghoster, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être en entreprise chez les gens? Est-ce que tu vas poser des lapins aux réunions, là, c'est pour donner une petite perche à la personne d'après qui va parler, je ne sais pas, enfin, quel rapport tu vas avoir avec tes collègues et les personnes pour qui tu travailles. Pour moi, il y a un truc là, je ne suis pas, j'ai pas été l'employé le plus modèle, mais à un moment donné, il y a quand même un respect vis-à-vis de l'entreprise qui t'embauche, et puisque tu es là pour travailler aussi dans l'entreprise et pour faire quelque chose avec l'entreprise. Et pour moi, c'est une rencontre, tu vois. C'est pour ça qu'on fait rencontrer plein de gens. Pour moi, c'est une rencontre entre les collègues, les futurs collègues et la personne qui va être employée.
Pas que pour l'entreprise, quelque part aussi par rapport aux autres candidats, c'est quand même pas cool parce que potentiellement, si ça ne t'intéresse pas, tu dis ça ne m'intéresse pas, puis c'est quelqu'un d'autre qui... Enfin, voilà, ça peut gâcher des chances à d'autres personnes. C'est un peu... Voilà, pour... En plus, on est assez grand, on peut comprendre. Enfin, je pense que les gens peuvent comprendre qu'il peut avoir un contretemps où on a quelque chose qui ne nous a pas plu et puis on n'a pas envie de venir.
Je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard, mais effectivement, la réputation. Alors en ce moment, c'est facile. Hein, toutes les entreprises recrutent et ont du mal à recruter. C'est facile de ghoster. On se dit, bon, c'est bon, j'ai 10 postes qui m'attendent. Sauf que les 10 postes qui l'attendent, c'est aujourd'hui. Mais cette personne-là qui t'a ghosté, toi, t'en as déjà parlé à ton entourage. Si c'est une personne qui est de ta région, bah, c'est une partie des chefs d'entreprise de la région le savent. Moi, je le sais, à Rennes, il y a plein de clubs de chefs d'entreprise. Tous les chefs d'entreprise dans le métier de la tech se connaissent plus ou moins. Il y a des chefs d'entreprise dans des domaines radicalement différents qui se rencontrent parce que ils veulent échanger sur la pratique de la gestion de l'entreprise. Et il peut très bien y avoir un gérant d'une jardinerie qui a envie d'avoir de conseils d'une personne de la tech. Moi je me suis fait ghoster. Ah ouais, c'est qui? Ah ouais, tiens, c'est marrant, elle est en train de postuler chez moi. Bon, mais hop, on l'écarte. Alors qu'on est dans une période faste. Sauf que là, l'économie, elle est un petit peu en train de se resserrer. Les recrutements vont peut-être commencer à se faire rares. A priori, il y a certaines entreprises qui vont faire des plans de licenciement. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plus de personnes sur le marché de l'emploi. À un moment donné, il faut payer ses factures à la fin du mois, il faut un boulot. Donc, du coup, c'est qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là le jour où elle va se faire bouler d'un petit peu partout. Bon, elle va prendre la mesure de ce qu'elle a fait ou pas fait, mais elle va peut-être en payer les conséquences dans quelques mois, dans quelques années, ou pas.
Oui, c'est sûr, en tout cas, que si les personnes qui ghost restent dans cet état d'esprit, elles vont avoir du mal avec le monde du travail. Mais justement, j'aimerais donner la parole à René qui dans les notes, nous a parlé de lapin lors d'entretien. Est-ce que, René, tu veux nous en dire quelques mots?
Oui, ça ressemble un petit peu, c'est en moins grave hein, quand même que ce que vous avez eu, à mon sens. Mais oui, il y a quelques temps, enfin quelques années maintenant, j'ai fait quelques recrutements, donc je sondais la partie technique en fait. On avait des candidats, on donnait un CV, et puis je rappelais le candidat pour qu'on vienne en rendez-vous et puis qu'on discute quoi, voilà, pour essayer d'avoir une idée du parcours, etc. Enfin voilà, ce qu'on a déjà évoqué dans un des podcasts sur le recrutement. Côté employeur. Et ça m'est arrivé, pas souvent, je crois que c'est une seule fois où j'ai eu une personne, j'ai reçu son CV, j'ai pris du temps. Donc voilà, hein, quand on a un CV, moi personnellement, je regarde, j'essaye de me faire, de lire, de réfléchir à ce que je vais poser comme question. Donc je l'appelle, ça se passe plutôt bien, on convient d'un rendez-vous. Pas de problème. Et puis le jour du rendez-vous, personne. Donc j'attends un petit peu, voilà. Bon il n'y a personne, manifestement il y a eu un problème. Ça peut arriver, hein, il n'y a pas de souci. Je suis pas spécialement recontacté, mais je fais la démarche de recontacter. Je dis à la personne, quand je l'ai eu, en gros, plus ou moins s'excuse et dit on convient d'un deuxième rendez-vous à un autre moment. Et deuxième rendez-vous, personne. Du coup, next, hein, après un moment, je comprends pas en fait la démarche de prendre le rendez-vous et pas forcément y aller. Si ça intéresse pas, tu dis ça m'intéresse pas, et puis voilà, je sais pas. Peut-être, ou alors c'est parce que les gens suivent deux trucs en parallèle et puis ils veulent pas se griller sur les deux, puis à un moment il y en a un qui a peut-être marché. Mais même si c'est ça, même si tu suis un autre truc en parallèle, si ça marche, tu rappelles le premier, tu lui dis non, en fait, finalement, j'ai trouvé mieux ailleurs, et voilà. Enfin, je sais pas. Ça me paraît du bon sens, mais voilà.
Je vais juste, avant que tu interviennes, Nicolas, je vais rebondir exactement là-dessus. Moi, je pense, si tu es en phase de recrutement et que tu as plusieurs offres qui te plaisent, va à tous les rendez-vous. Et c'est toi qui auras la carte en main pour choisir ton entreprise plutôt que choisir la première. Parce que moi, j'ai eu plein de personnes que j'ai recrutées qui m'ont dit « je ne vais pas faire le rendez-vous parce que je me suis fait embaucher par telle entreprise ». Ça, c'est un truc que j'ai vu régulièrement avec les alternants et alternantes. C'est, je pense, qu'ils sont tellement en stress de trouver une boîte qu'ils disent oui parfois à la première personne, mais qu'ils ne se laissent pas la possibilité d'étudier toutes les entreprises et de voir celle-là, elle serait mieux, donc je vais aller chez celle-là. Et puis c'est elles qui ont les cartes en main. Vas-y, Nicolas.
Ouais, c'était à peu près ce que je voulais dire. Alors peut-être que les gens n'osent pas dire non. Alors c'est à un moment donné, il faut apprendre à dire non aux personnes. C'est non, le boulot m'intéresse pas, non, c'est trop loin, non, c'est pas assez cher payé, non. Vous pouvez le motiver. Ça aide aussi l'entreprise à avancer. Hein. C'est moi régulièrement, j'ai des entreprises qui me contactent et je leur explique pourquoi je veux pas aller travailler chez eux parce que bah, ils proposent pas de télétravail dans mon cas, ils payent pas suffisamment. Bon, bah voilà. Et après, ça les aide aussi à progresser et ça fait évoluer la société au sens général du terme. Et après, c'est ne pas aller à un entretien. Moi, c'est l'inverse. C'est, je vais régulièrement passer des entretiens. Je suis parfaitement transparent avec les entreprises. Si j'ai d'autres pistes en vue, je n'hésite pas à le dire. Si j'y vais juste pour voir, j'hésite pas à le dire non plus. Et en étant transparent, c'est toujours mieux pour tout le monde. Et en plus, faire un entretien, même si c'est une entreprise qui ne vous plaît pas, ça vous entraîne. Donc, aller faire un maximum d'entretiens, c'est toujours mieux de faire des entretiens. Et le jour où vous allez tomber sur la bonne boîte, eh ben, vous aurez déjà été rompu à passer des entretiens avec des RH, avec des personnes techniques. Parce que quand on va vous poser la question de c'est quoi vos 10 meilleures qualités, si vous ne savez pas quoi répondre, vous allez bien transpirer et peut-être que vous allez rater le job dans la boîte dont vous rêvez depuis des années, juste parce que vous avez posé des lapins à 10 boîtes avant, parce que non, ce n'était pas la boîte parfaite. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Bah, je ne sais plus, mais on va sûrement en reparler tout à l'heure.
Tout à fait, on va sûrement en reparler tout à l'heure. Et je propose de passer à l'ambiance malsaine, la deuxième partie de notre podcast où on va parler des ambiances un peu malaisantes et malsaines. Et je vais redonner la parole à René qui va nous parler au choix de ce que tu veux, René, de comportement toxique ou d'attaque personnelle. J'ai vu que tu avais noté ça dans les notes.
Alors, bah, en fait, j'ai noté ça. Mais je suis assez mal placé parce que je ne l'ai jamais réellement vécu, donc tout va bien. Donc je vais peut-être passer la main à mes collègues qui ont pu vivre ça. Il y aura des anecdotes peut-être plus.
Allez, Nicolas, tu as l'air motivé par ça.
Ouais, alors c'était dans une des boîtes où j'étais, on m'avait demandé de monter une équipe technique. J'ai recruté une personne. Alors on va passer sur les détails pour rester suffisamment anonyme, mais la personne a radicalement changé de comportement et elle s'est transformée en un espèce de gremlins. On a dû le nourrir après minuit, je sais pas. Mais c'est effectivement une personne extrêmement toxique. Moi, j'ai demandé à ce qu'elle soit licenciée. Elle n'a pas été licenciée. Au final, je suis parti de l'entreprise. La personne est restée dans l'entreprise pendant pas mal de temps et elle a continué à faire des dégâts parce qu'en fait, en gros, c'était un psychopathe, hein, pour simplifier, qui n'était pas capable de comprendre les critiques, etc., qui trouvait des problèmes plutôt que des solutions. Et plutôt que de tirer la boîte vers le haut, bah, elle l'a tirée vers le bas. Donc, heureusement, ce n'était pas la seule personne dans l'entreprise. Donc, il y en avait d'autres qui réussissaient à faire avancer. Mais c'est en fait, quand vous recrutez des gens, essayez d'être vraiment attentif à l'attitude de la personne. Donc, ça se fait de plus en plus maintenant dans les entreprises qui recrutent. Là, j'ai un de mes clients qui disait... les compétences techniques, c'est bien, mais ce qui nous importe plus, c'est l'attitude de la personne, voir si elle va bien s'entendre avec les autres personnes de l'équipe, si le mood de la personne correspond au mood de l'entreprise, en gros, parce que bah, si la personne est malheureuse, elle va se transformer en gremlins et pourrir un petit peu tout le monde, quoi. Et je pense qu'il y a quand même une minorité de personnes réellement toxiques. Mais il y a certaines, enfin, je pense que tous, si on nous met dans des environnements pas adéquats, on commence à devenir à notre tour le gremlin, c'est avoir un comportement toxique avec les autres. Je l'ai vécu, hein, j'ai été aussi de l'autre côté de la barrière, c'est j'étais dans une boîte où j'étais vraiment pas bien et j'étais extrêmement négatif. Tous les matins, c'était fait chier. Et tout ce qu'on fait, c'est nul. Et puis voilà. Donc, un jour, j'ai été recadré par mon manager qui m'a dit, tu sais, c'est pas un bon comportement à avoir. Ça serait quelqu'un d'autre. Je t'aurais déjà viré depuis longtemps. je sais que commenter quand tu es motivé, donc change un petit peu d'attitude et ça ira mieux. Et on verra un petit peu plus tard comment on peut réagir dans ces trucs-là. Et après, bon, bah, attaque perso.
Attends.
Bah, tu veux y aller ?
Ouais, parce que je vais réagir au comportement toxique, mais surtout, je vais rappeler qu'on a fait un podcast sur comment recruter, vu que tu parlais de recrutement. Donc, je vous renvoie à ce podcast. Comportement toxique, moi aussi, j'ai eu des comportements semi-toxiques. Et en fait, quand on n'est pas quelqu'un qui a un comportement toxique de manière habituelle, je veux dire, mais qu'on rentre dans cette phase que tu viens de nous décrire, où on est négatif, où on voit mal les choses, c'est en fait, c'est un signe avant-coureur que le boulot, il n'est plus fait pour nous et que c'est le moment de peut-être le quitter. Moi, j'étais dans cette phase-là, j'étais pas bien, il y avait des problèmes entre les services de l'entreprise où j'étais, ça se passait mal, dans mon service, je disais toujours « Ah, on gère mal les trucs », en plus, j'étais épuisé parce que je faisais des astreintes, bref, voilà. Et en fait, j'ai pas vu tout de suite que c'était le moment où en fait il fallait que je quitte l'emploi parce que justement c'était en train de me miner. La mission, parce que j'étais en prestation, elle s'est terminée. J'ai été chez un autre client, mais finalement un an après j'ai fini en burn-out parce que même problème qui se sont répétés. Donc bon, j'ai fini par quitter l'entreprise qui m'employait. Donc faites attention si vous êtes dans ces comportements-là, mais que c'est pas quelque chose que vous faites de manière générale. Je ne sais pas comment on peut reconnaître qu'on est un connard, mais si vous vous comportez en connard et que vous n'en êtes pas un, et ben c'est peut-être qu'en fait, l'ambiance dans laquelle vous êtes, la mission dans laquelle vous êtes, n'est pas faite pour vous et vaut mieux partir. Pour le bien de vos collègues et le vôtre. À Nicolas.
On est tous le connard d'un autre. Hein, donc après, c'est est-ce qu'on est un connard ou pas, c'est pas trop la question. C'est plutôt, c'est si vous y allez à reculons, c'est arrêter d'y aller, hein, chercher un autre boulot, une autre mission. Moi, j'étais chez Orange, j'y ai passé de très belles années, mais j'ai fait un burn-out parce que le mammouth a traîné. Moi, ça me pesait beaucoup. Je me suis rendu compte qu'avec l'âge, je supportais plus de travailler dans des open space. Donc, j'ai cherché à bosser plus dans une start-up, donc des boîtes à petite échelle, pour faire du build et du bootstrap de projet, et en full remote pour éviter l'open space et aussi le trajet du matin. Donc, c'est assez rapidement, j'ai eu le côté écologique et je ne supportais pas de rester coincé 10 minutes dans les bouchons. Donc, on a tous nos névroses, hein, mais moi, du coup, j'ai fait en sorte de travailler dans un boulot qui me plaît. Quand ça me plaît plus, maintenant, j'hésite pas à le dire pour essayer de faire changer les choses ou à agir et changer de boulot. Finalement, rien ne vous empêche de changer de boulot, rien ne vous empêche de discuter avec vos managers pour dire aujourd'hui, ça ne me convient pas la manière dont ça fonctionne, que ce soit le côté technique, le côté organisation, les gens avec qui vous travaillez, etc. Il faut communiquer. Hein. Et s'il n'y a pas moyen de faire changer les choses, changez les choses par vous-même et bougez. J'ai vu un message il n'y a pas très longtemps, c'est... plutôt que de subir la situation, levez-vous et commencez à agir et faites des choses.
Et comme tu avais la parole, je te propose de la garder pour parler d'attaque personnelle.
Ouais, pour moi, c'est à peu près la même chose que le comportement toxique. C'est des personnes qui ne sont pas capables de faire la différence entre ce que vous faites comme boulot et la manière et la personne que vous êtes, pardon. Et de la même on peut prendre le problème à l'inverse. C'est quand on va vous attaquer personnellement, c'est prenez pas tout ce qu'on vous donne comme critique comme étant quelque chose qui vous définit. Vous avez fait quelque chose parce qu'on vous a demandé de faire quelque chose, parce que vous avez l'habitude de faire comme ça, etc. Il y a des personnes qui ont des manières différentes de faire les choses et on vous attaque sur ce que vous avez fait et pas forcément sur ce que vous êtes. Donc, prenez un petit peu de recul par rapport à ça Et quand vous commencez à vouloir critiquer le travail d'un autre, bah déjà commencez à regarder au pas de votre porte, parce que des fois, ce n'est pas toujours mieux. Et faites-le de manière constructive. C'est une méthode que j'aime beaucoup, c'est la communication non violente. Alors bon, c'est plus ou moins apprécié.
Je te propose qu'on en parle tout à l'heure, parce qu'on a toute une partie sur la communication et j'ai noté ce point-là, justement.
Bon, bah voilà.
Et on en reparlera. Moi, je vais parler d'attaque personnelle, mais vraiment d'attaque personnelle. Moi, j'ai été victime d'attaque personnelle au tout début de ma carrière. Moi, il faut savoir que j'ai un BTS et j'ai été embauché dans une boîte où il y avait très peu de BTS. J'étais l'un des rares. Tous les autres étaient des ingénieurs. Je n'avais pas les moyens, moi, de faire une école d'ingénieur, payer 5 ou 10 000 euros, je ne sais plus, à l'année. Bref, on passe là. Et en fait, il y avait un ingénieur qui avait été embauché après moi. Et qui me critiquait dans mon dos. Moi, je ne le savais pas, en fait. Et c'est une de mes collègues qui est venue me dire et qui me dit, tu sais, un tel, lui, te traite d'échantillon et dit que tu ne vaux pas autant que nous. Donc, elle était révoltée. Bon, je l'ai compris. Je lui ai dit, bah, ok, très bien, mais ce n'est pas grave. Moi, je m'en fous. Parce que déjà, ça fait longtemps que voilà, j'ai la tête dure. Mais ne vous laissez pas, en effet, l'idée, c'est ne vous laissez pas agresser et déprimé par ces attaques-là. Par contre, allez voir les personnes et allez tirer les affaires au clair. Pourquoi ? Moi, je ne l'ai pas fait à l'époque, je le regrette aujourd'hui, mais pourquoi est-ce qu'on vous attaque personnellement, dans votre dos en plus, ou alors par devant ? Est-ce que vous avez fait un truc qui ne va pas à la personne ? Est-ce que la personne, juste en fait, c'est un connard d'ingénieur qui a la tête comme un melon ? Je pense que c'était ça à l'époque, hein, mais voilà. C'est plus facile maintenant avec le recul. Mais voilà, l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'il se passe ça et est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour changer les choses? Parce que la personne, elle, vous n'avez aucun lien sur elle, mais par contre, vous pouvez essayer de faire quelque chose. Donc, bon. Je vois, René, que tu as peut-être un truc à dire là-dessus.
Oh, petite anecdote, mais pour le coup, moi j'ai un ancien collègue qui s'est fait sortir d'un client parce que justement il a dérapé en fait. Et effectivement, on peut dire beaucoup de choses sur le travail, sur voilà, ça passe, mais bon, à un moment il s'est vraiment attaqué à une personne en la citant et en nommant sur quelque chose en plus qui n'était pas forcément en rapport avec. Réellement le travail quoi. Et quand même le côté client, côté management côté client, ils ont décidé que c'était il y avait eu déjà un peu des cas précédents de ce type là et ils nous ont fini par le sortir, ce qui est plutôt était peut-être probablement la meilleure chose à faire.
Ouais, alors du coup je vais prendre ton exemple justement pour pousser un peu. On est dans l'informatique et il y a beaucoup de boîtes d'ingénierie en informatique, maintenant elles s'appellent les ESN, qui embauchent des gens comme nous et qui les envoient chez des clients. Donc on est là en prestation, on est un peu quelque part en représentation. On représente notre entreprise chez les clients. Et ce que tu dis, René, la personne, quand elle fait ce genre de choses, elle prend son marteau et elle va écorner l'image de l'entreprise. C'est, en gros, le client il va dire « Mais qui est-ce que tu m'envoies qui se comporte comme ça? Comment est-ce que tu recrutes tes gens ?» Enfin, quelque part, vous représentez aussi l'entreprise qui vous envoie travailler chez un client. Donc, c'est important, si vous voulez avoir une carrière dans l'informatique, de faire attention à ce genre de choses. Parfois, peut-être, vous pouvez vous retenir de dire certaines choses. Nicolas.
Alors moi, je dirais qu'on représente totalement la société qui nous emploie, parce que les ESN ont quand même des spécialités, etc. Ils recrutent des profils un petit peu particuliers. Et moi, je sais qu'à Rennes, à l'époque où j'étais encore en ESN, peut-être que ça a changé, mais il y avait quand même des profils suivant les ESN. Alors bon, c'est les gens changés, machin, etc. Mais vu les mentalités qui sont différentes suivant les boîtes, si tu commences à insulter tes collègues, ils vont dire « Dis donc, cette boîte-là, ils embauchent des connards. » Donc, oui, non.
Et en plus, vous pouvez vous faire licencier en insultant les gens. C'est un motif de licenciement qui est reconnu. Hein, donc, ne vous amusez pas à le faire. C'est pas une bonne chose, ni pour vous, ni pour l'ambiance de l'entreprise. Enfin, bref.
Je conseille le compte Twitter Curiosité Juridique, un truc comme ça, a été licencié la personne qui a traité sa collègue de et une petite flopée d'insultes que je répéterai pas ici. Mais oui, c'est aussi un motif de licenciement. Et quand vous vous faites sortir d'une mission, c'est vraiment pas bon signe. Et en gros, c'est une cartouche que vous avez grillée dans votre ESN. Et si vous vous faites sortir un petit peu trop souvent, ils vont vous éjecter. Hein. Les ESN, il faut comprendre un truc, c'est qu'elles sont là pour vous placer chez les clients. Et leur but, c'est que vous soyez plus facilement utilisable. Puisqu'ils vous ont employé, donc le terme, ce n'est pas forcément employable. Mais leur but, c'est de vous placer le plus facilement possible. Si vous vous faites éjecter de partout de là où vous allez, et en plus, les gens discutent, encore une fois, moi, je sais que certaines personnes, à l'époque, j'en aurais pas voulu dans mon équipe. Donc, on te présente un CV. Quand tu lis le CV sans avoir le nom, tu sais qui c'est. Quand la personne vient passer l'entretien, tu vois qui c'est, donc elle est grillée. Donc, bon, il faut faire attention.
C'est encore plus vrai dans les ESN parce qu'elles parlent entre elles.
Oui.
Erwan, ça fait un moment qu'on ne t'a pas entendu et justement, tu as des petites choses à nous dire sur les ambiances malsaines et les stéréotypes qui ont été véhiculés au début et qui vont aller justement nous amener vers la prochaine partie de l'émission.
Non, juste pour recentrer par rapport à nos métiers respectifs, dans les ambiances malsaines, le truc que je voulais ajouter, c'était que probablement il y a quelques années, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui, mais comme les aspects communication et tout, et ce qu'on appelle globalement les soft skills, et donc la posture en entreprise n'était pas aussi important que ça ne l'est aujourd'hui, ou en tout cas pas autant valorisé. Dans les métiers qui concernent les ops et la prod en général, il y avait vraiment ce côté asocial dans sa caverne, mais qui fait le job, mais qui est accompagné aussi de tous les clichés qui sont pas hyper cool en termes d'ambiance, des clichés sur le manque de communication, et quand il y a de communication pas toujours très très avenante, avec une posture souvent ronchon, voire même hostile, avec souvent accompagné du pattern du héros. Donc tout ça, ça amplifie un petit peu les ambiances malsaines et ça dérive pas mal sur des postures toxiques. Et enfin, c'est moins vrai aujourd'hui, mais les histoires de, entre guillemets, de vieux sysadmins hyper toxiques, il y en a des milliards, et ça recoupe une bonne partie de ce que vous avez cité en termes de soucis et d'ambiance.
Pour les plus jeunes qui ne voient pas de quelle réputation on pouvait jouir à l'époque, je vous conseille la série IT Crow, qui fait un petit peu décalé en regardant aujourd'hui, mais ça représente à peu près l'image qu'on avait il y a une vingtaine d'années. Ouais.
Ah bah, je trouve que le personnage de fiction qui représente bien le sysadmin un peu à l'ancienne, c'est le personnage de Silicon Valley qui fait le système, l'admin sys, justement, et qui est hyper prétentieux, qui parle mal à tout le monde dans la série, mais qui est très très fort, qui fait des trucs incroyables techniquement. Mais voilà. Et on peut dire qu'une bonne partie de l'ambiance malsaine dans l'équipe, c'est lui qui la met en place. Et je pense que c'est un cliché qui n'est pas si galvaudé que ça par rapport à. En tout cas, ce que j'ai pu voir par le passé.
Absolument, je regarde cette série.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du coup, comment est-ce que concrètement on peut réagir à ce genre de choses? Comment est-ce qu'on peut faire justement quand ça arrive? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? On en a un peu brièvement parlé, mais justement, Erwan, tu voulais nous parler justement de ce que le DevOps apporte à ça, à ce stéréotype dont tu viens de nous décrire. Est-ce que tu peux poursuivre un petit peu, s'il te plaît?
Oui, en fait, je pense que c'est un peu la suite de ce que je viens de dire. C'est qu'avant, il y avait vraiment ce côté, potentiellement, l'équipe d'Ops dans sa caverne qui parle peu, qui a des interactions pas toujours très cool avec les autres équipes, etc. Aujourd'hui, avec la philosophie et les méthodes dites DevOps, cette approche, elle n'est plus vraiment possible parce que on va vraiment moins tolérer un manque de communication et puis une posture pas, enfin ouais, pas prétentieuse ou pas cool, parce que l'objectif, c'est de briser des silos. Et pour briser des silos, bah, il faut une communication. Et surtout, il faut une communication claire et qui soit sans jugement, qui soit juste factuelle. Et donc, du coup, les efforts à faire en termes de posture et de communication avec les autres équipes est quelque chose de beaucoup plus galvaudé. Avant, d'ailleurs, il suffit de voir les annonces liées pour tout ce qui est SRE ou DevOps. Avant, on demandait des gens très techniques. Aujourd'hui, on dit, ouais, non, il faut être technique, mais aussi, il faut savoir communiquer, il faut savoir écrire la doc, etc., etc. Et en fait, tout ça vient justement pour cette question de posture dans l'entreprise, de savoir-être, et quelqu'un qui est très fort techniquement, mais qui ne saura pas se mettre donc au service de briser des silos, de faire le pont entre infra, dev, etc. En fait, c'est quelqu'un qui aura un petit peu plus de mal, je pense, à s'y retrouver dans la façon dont les gens travaillent ou veulent travailler aujourd'hui. Je continue ou vous voulez rebondir?
Bah écoute, apparemment personne ne veut rebondir, donc vas-y, continue.
Bah, et du coup, en termes de tout genre de posture, etc., comme je le disais, l'idée du DevOps, c'est donc de briser des silos. Mais du coup, tu peux pas briser des silos sans faire justement un effort de com, etc. Et vraiment en étant hyper factuel et sans jugement. À partir d'un moment, on va travailler sur le même code, alors qu'avant, c'était peut-être pas forcément le cas. Aujourd'hui, ça l'est de plus en plus. On va surtout review son code, faire une review, c'est de la communication, c'est de la posture. Il suffit de voir sur GitHub comment dirais-je, quand vous ouvrez une issue et que vous faites un commentaire sur une paire sans l'argumenter, sans mettre un minimum de forme, c'est simple, personne ne vous calcule ou personne ne voudra review votre truc ou quoi que ce soit. Donc en fait, aujourd'hui, en fait, tout est communication et tout est posture. On ne peut plus arriver... et donc du coup, il faut y faire attention. Il faut faire attention quand on fait quand on communique, quand on fait de la review. Et de la même façon, il faut faire attention à bien savoir recevoir les retours d'une review ou d'un commentaire. Et l'exemple... qui moi me frappe le plus en termes de posture et de communication, c'est quand quelqu'un vous fait une review, vous dit que c'est pas bien, mais vous propose pas une alternative par exemple, ou vous dit pas ce qu'il aurait attendu de mieux. Bah en fait, ça c'est typiquement le genre de posture et de communication qui fait que on casse un truc. Parce que moi je veux bien entendre que ce que j'ai fait c'est pas ouf, mais dis-moi comment je m'améliore, sinon ça sert à rien. Si c'est juste pour me dire bah, je mets pas mon approve, mon approval, bah, en fait ça sert à rien. Et un autre exercice qui est très propre à la façon dont on dev aujourd'hui et dont le DevOps s'inspire beaucoup, c'est tout ce qui est pair programming. Et de la même façon, le pair programming, c'est de la communication, c'est de la posture. Quand quelqu'un a votre clavier et est en train de taper un truc pour progresser, pour développer une feature ou quoi que ce soit, quand vous voyez un truc qui va pas dans le bon sens, si vous arrivez en mode ghetto à l'insulter, à dire « Ah, mais tu fais n'importe quoi » ou quoi que ce soit, en fait, vous cassez le truc, vous cassez la communication, vous allez paraître hyper prétentieux. Enfin, y a rien qui va dans la posture. Et en fait, on se rend pas compte, mais c'est hyper facile d'avoir ce biais-là parce que quelqu'un fait quelque chose de différent ou pas comme vous l'imaginez. Bah, on va se dire « Oula, 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 qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, malgré tout, c'est quelque chose de bien et cool, et donc vous apprenez. Et en fait, la pair review, elle est là-dessus. Elle est, la pair programming, elle est là-dessus. Elle est sur le fait de voir des choses différentes faites par d'autres et progresser, s'en inspirer, etc. Mais des fois, en fait, vous avez vraiment une meilleure façon de faire ou quelque chose d'un peu plus efficace, pardon, ou quoi. Et donc, dans ce cas-là, il faut, encore une fois, sujet de communication, sujet de posture. Il ne faut pas rentrer en mode jugement, moquerie ou quoi que ce soit. Il faut juste amener l'amélioration. Et ça, on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, dans nos métiers, c'est juste indispensable. Et ne pas faire l'effort là-dessus, je pense que c'est de se couper d'énormément de chances de progresser, mais aussi de se couper juste des autres équipes, et donc du coup, de ne pas remplir sa mission quand on est dit DevOps associé. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous laisse rebondir sur ce que vous voulez.
Ouais, je vais rebondir parce que ce que tu parles pour les merge requests et les reviews de code me parle, et je vais apporter un petit témoignage. Alors, moi, ça fait longtemps maintenant que je fais que je donne mon approbation aux reviews de code, parce que ça fait plus de 3 ans que j'accueille des alternants et des stagiaires. Donc maintenant, c'est moi qui dois faire les approbations. Et pour l'instant, on est 2 dans l'équipe à le faire. J'espère qu'un jour, on sera plus nombreux. Et c'était très dur au début, justement, parce que j'étais dans ce que tu dis. C'était dur pour moi, parce qu'en plus, on s'oblige à faire nos retours en anglais, qui n'est pas une langue que je maîtrise très bien. Et j'ai beaucoup de problèmes à l'écrit. Donc, ça me met à moi deux difficultés, ce qui fait qu'en plus je peux paraître sec. Déjà dans ma communication écrite, je parais sec parce que je suis pas quelqu'un qui enrobe beaucoup. Et donc là, je me suis aperçu qu'il y avait un truc. Je l'ai corrigé avec le temps. Maintenant, ce que je fais, j'essaye de savoir aussi pourquoi les gens font quelque chose. Notamment, tu disais, ah, c'est étonnant que tu aies fait un truc comme ça. Plutôt que de m'étonner, je demande à la personne pourquoi est-ce qu'elle a fait les choses comme ça. Et ça, j'ai hérité du coaching. Et il y a deux plus-values à faire ça. La première, c'est que si elle a une vraie raison, la personne va te l'exprimer, et du coup, tu vas comprendre pourquoi elle a fait ça. Et si il n'y a pas forcément une vraie raison, la personne, elle va se poser elle-même des questions, elle va tenter de réfléchir, elle va se dire mais pourquoi j'ai fait ça. Et si c'est une personne qui est en cours d'apprentissage, c'est bien pour son propre apprentissage de pas tout lui donner tout cuit dans la bouche. Et après, tu t'aperçois que la personne ne répond pas, ça peut être écrit ou ça peut être oral, bah tu peux lui dire bah voilà, moi je le ferai comme ça, etc. Donc des fois je fais des suggestions, des fois je pose des questions. Depuis quelques temps, j'ai commencé à faire des revues vidéo. Alors certes, c'est moins pratique que les revues écrites, mais pour certains trucs où on est en complet asynchrone, je prends mon écran, je prends la branche et je fais des trucs et je montre ce que je fais à l'autre personne pour montrer des choses. Ça, et quand on fait du pair programming, évidemment. Là, c'est quand on ne peut pas faire du pair programming, je prends mon écran et je me filme.
Ouais, je pense. Pour quand même la review, par contre, c'est un exercice qui est quand même pas toujours évident, Et après, pour prendre un peu le pendant de ce que vous avez dit, parce que vous vous êtes mis dans la peau de la personne qui fait la review, dans la peau de la personne qui a fait la pull request. Et je pense qu'il faut aussi, ce que tu disais, c'est vachement important, parfois le passage à l'écrit, ça enlève un peu des nuances, etc. Donc il faut aussi un peu accepter que parfois la tournure, ça peut paraître un peu sec, mais c'était voilà, faut pas prendre le truc trop perso et se dire voilà, il est en train de m'engueuler ou quoi. Non, des fois c'est juste la tournure qui va pas, il faut arriver à passer outre ça. Et puis effectivement, si on a beaucoup d'ego, je pense que ça peut être parfois un peu compliqué. Et pour les gens qui ont beaucoup d'ego, je pense qu'il faut aussi un peu se détendre. Et voilà, accepter aussi qu'on nous dise quelque chose et après discuter pour voilà, et pas se braquer, quoi. Voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté, il n'y a pas que le reviewer qui doit faire preuve de bienveillance. Je pense que ça se partage, en fait.
Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on critique ce que vous avez fait et pas ce que vous êtes. Et finalement, c'est exactement ça. Formuler autrement, c'est pour celui qui review, arrêtez de dire c'est de la merde, expliquez pourquoi vous trouvez que c'est de la merde. Essayez de formuler autrement parce que c'est de la merde, vu de l'autre côté, c'est un peu violent. Et quand vous êtes de l'autre côté, quand on vous dit c'est de la merde, demandez ok, mais pourquoi? Et en fait, en amenant les gens à essayer de vous expliquer pourquoi, ça va instaurer une mécanique et les prochaines reviews seront aussi meilleures parce que les gens auront le réflexe d'expliquer pourquoi. Moi, je me souviens dans la boîte où j'étais avant, on faisait systématiquement des reviews de ce qu'on faisait. Alors, ça allait plus ou moins vite suivant les reviews, il y avait des trucs plus ou moins lourds, mais globalement, quand ça commençait à être vraiment trop gros, on faisait les remarques et on n'hésitait pas à refaire de la visio pour s'expliquer pourquoi tu m'as fait cette remarque et ok. Donc effectivement, nous aussi, on le faisait en anglais, mais on n'hésitait pas non plus à se faire une visio pour s'expliquer parce que des fois, ça va beaucoup plus vite de discuter en pair à pair ou même faire une review à plusieurs. Hein. Rien n'interdit de refaire la revue à 3, 4, 5. Quand il y a des grosses PR, en plus, c'est d'autant plus intéressant.
Exactement. Du coup, vu qu'on est dans la perception de ce qu'on reçoit et tout, je te propose, René, parce que tu as mis un truc dans les notes de l'émission, tu as parlé de se faire pourrir. Est-ce que tu peux en dire plus? Moi, je me questionne de comment est-ce qu'on peut ne pas se faire pourrir, justement.
Alors, c'est une anecdote, en fait, qui m'est pas arrivée personnellement, mais qui est arrivée à un ancien manager à moi, où on était dans un meeting avec un client. Et à un moment, le client a complètement pété un peu les plombs et on s'est fait pourrir pendant, je pense, bien 15 minutes. Et je me rappelle de cette réaction que mon collègue a eue, quoi, parce que... alors après, il faut arriver à le faire, hein, ce n'est pas toujours simple, mais en gros, il l'a laissé parler. Et à la fin, quand il a eu fini... Et il lui a dit, c'est bon, tu as fini, on peut reprendre. Et en fait, le gars, ça l'a. Pourtant, c'était quelqu'un assez élevé dans la société en face. Ça l'a complètement déstabilisé, plus que s'il s'était énervé, parce qu'en fait, le comportement limite qui aurait pu se passer, c'est qu'on soit parti en claquant la porte ou vraiment que ça parte en sucette complet. Et ouais, ça, c'est un truc. Moi, ça m'a bluffé. Et je pense que c'est vachement efficace quand les gens vraiment dérapent. Leur laisser passer un petit peu le coup de colère et à un moment gentiment les recadrer en leur disant que voilà, après il faut être capable de le faire parce que des fois ça peut s'envenimer.
C'est difficile pour moi à faire parce que pendant que je me fais pourrir, en fait, je comprends que pourquoi je me fais pourrir. Et en fait, ça me fait marrer, donc j'ai un sourire jusqu'aux oreilles pendant que je me fais pourrir. Mais...
Après, faut pas se moquer non plus, quoi. Voilà. Non, mais là, vraiment, mon collègue, il a vraiment eu, je pense, vraiment la bonne attitude, quoi. Et moi, bon, j'avoue que ça me chauffait. Pourtant, je suis quand même plutôt calme. Mais j'avoue que ça me chauffait. J'avais envie des fois de répondre. Et en fait, on a vu que ça. Enfin, il a bien analysé la situation. Il a vu que ça servait à rien. Le gars, il était vraiment, voilà, il était dans un moment de colère et tout ça. Et voilà. Et c'était, je pense, vraiment le bon truc.
C'est ce que m'avait appris un prof de communication, c'est quand tu es dans une situation vraiment compliquée, extrême, bah, tu prends les choses à contre-pied. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, c'est tu le laisses terminer et puis c'est bon, on peut reprendre la réunion. Et en fait, ta personne est tellement déstabilisée que oui, d'accord.
Et puis, ouais, puis ça, il a lâché les trucs, ça, après ça s'est mieux passé. Bon, après, c'était pas. Voilà.
Il en avait peut-être gros sur la patate, il avait peut-être des problèmes personnels, il avait peut-être des problèmes dans sa boîte, il avait besoin de se défouler, vous étiez les seuls sur lesquels il pouvait gueuler parce qu'il ne peut pas gueuler sur son chef. Des fois, c'est ça, hein, on est des êtres humains et puis bah, un jour, la soupape, elle pète. Bon, bah, et voilà, faut essayer de faire en sorte que ça se passe bien et pas en venir aux mains parce que j'en connais à qui ça peut arriver. Bon, bah, voilà, et puis après, il faut rester calme. Et de la même manière... Dans l'inverse aussi, c'est assez rapidement, j'ai un de mes chefs qui m'avait dit « Nicolas, calme-toi, va prendre un café et réponds jamais à chaud. Tu réponds que quand tu es calmé. » Il y a une autre technique. Ouais.
C'est une très bonne technique. J'allais dire, tout à l'heure, on a dit de ne pas insulter les gens, mais de ne pas frapper les gens, c'est évident.
Voilà. Oui, c'est encore mieux. Oui. Bien qu'il y en a qui le mériteraient, mais c'est pénalement répréhensible.
Oui, non, mais parce que là, si vous insultez les gens, à la rigueur, peut-être que ça peut passer, mais si vous frappez les gens, mais c'est sûr, vous prenez vos petits trucs et vous êtes licencié directement, vous ne revenez pas dans l'entreprise. Hein.
Alors, ça dépend qui, hein, parce que des fois, il y en a qui pourraient venir t'aider, mais bon, c'est une autre histoire. Alors, bref. Prenez pas tout ce que je dis au premier degré. Et sinon, une autre manière de réagir, donc c'est plutôt par mail. Donc, vous êtes énervé, vous avez envie de vous défouler. Eh ben, défoulez-vous. Écrivez le mail. Mais dans un truc qui n'est pas dans la messagerie, parce que si vous cliquez sur envoyer, vous êtes mort. Enregistrez un brouillon dans un traitement de texte, machin, etc. Vous l'enregistrez et vous le relisez le lendemain. Et soit vous allez tempérer un petit peu les trucs, soit vous allez vous dire « ouais, en fait, ça sert à rien, on s'en fout, vous aurez déjà oublié le truc, vous serez passé à autre chose. »
C'est très vrai pour les reviews, parce que pour le vivre assez, des fois, régulièrement, des fois, on lit une review, un truc qui ne nous plaît pas, parce qu'on dit « ah, putain, il va falloir que je refasse des trucs. » Des fois, laisser passer du temps un petit peu et de revenir après. Des fois, c'est juste ben, le fait de relire. Des fois, on n'interprète pas la chose de la même manière. Et ouais, ça aide vraiment ça. Ça, c'est un bon tip, ça.
Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on ait fait péter la production. Je ne sais pas, on a fait un truc. Bref. Comment est-ce qu'on réagit dans ce cas-là? Parce que comment est-ce qu'on peut se comporter en tant que professionnel si on a fait une erreur, Nicolas?
Alors, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-unes qui étaient belles. Donc après, je crois qu'on en avait parlé aussi dans le podcast où on avait parlé de la gestion des incidents. Mais déjà, le premier truc à faire, c'est lâcher le clavier, parce que ne faites rien qui pourrait empirer les choses. Si vous êtes tout seul, essayez de prévenir des gens autour de vous, des personnes qui pourraient vous aider, le client qui peut être impacté. Alors, si c'est le client qui va vous pourrir pendant 25 minutes, effectivement, celui-là, vous pouvez l'oublier. Par contre, si c'est un client qui va vous dire qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ça m'est arrivé. J'ai écrit un article de blog sur comment restaurer une base de données MySQL sur laquelle on a fait un RM-RF. Donc, j'ai eu une belle descente d'organes. J'ai passé pas mal de temps aux toilettes, mais après, il a fallu remonter les trucs. Et ça s'est fait parce que j'ai réussi à quand même garder mon calme et j'ai discuté avec le client. Quand ça vous arrive, discutez avec vos collègues. Moi, je me souviens, dans mes premières années où j'ai travaillé, j'ai un collègue qui avait fait un RM-RF sur un serveur de prod. Bon, ça arrive. Hein. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de conneries. Et comme on dit, il y a deux types d'administrateurs système. Il y a celui qui a déjà fait une énorme connerie en prod et il y a celui qui ne va pas tarder. Donc, il était catastrophé et il vient nous voir. Il nous fait qu'est-ce que je fais? C'est simple. Tu vas aller chercher la bande, puis tu vas restaurer la sauvegarde et puis voilà, hein, c'est pas grave. Hein, la connerie, elle est faite. On peut pas revenir en arrière. Maintenant, ce qu'il faut, c'est restaurer le service, prévenir le client, et ainsi de suite. Comment tu fais, toi, Erwan, quand tu fais des RM-RF sur tes serveurs?
Alors, ça m'est arrivé aussi. Une sombre histoire. Mais je pense que oui, ce que tu as dit, c'est juste. Et puis, pour pas qu'il y ait une posture, enfin une ambiance malsaine, etc., il faut essayer de communiquer le plus vite possible sur le problème et pas chercher à comprendre, enfin je pense, hein, chercher à résoudre le problème et pas à débattre de l'origine de pourquoi on est arrivé à ce problème. Ça arrivera dans un second temps, pendant le post-mortem, etc. Et le fait de se concentrer sur l'immédiat, et ça, normalement, ça doit nous pousser à être factuel et pas être dans le jugement de « il y a quelqu'un qui a fait une erreur » ou quoi que ce soit. C'est, on doit être dans l'opérationnel et répondre au truc. Et je pense que c'est, encore une fois, dans nos métiers qui sont quand même de plus en plus de la communication, surtout avec des SLA à respecter, etc., il faut être nickel là-dessus. Alors, dans les exercices pour que ça se passe au mieux, pour éviter que les gens se fassent pourrir ou quoi que ce soit, c'est important, quand c'est possible, d'avoir des gens qui travaillent sur la résolution d'incidents et des espèces de personnes qui fassent un petit peu le buffer entre... ils voient ce qui se passe pour la résolution, ils arrivent à comprendre et à voir les ETA, etc., de quand est-ce que ça sera rétabli, et qui font la communication vers l'extérieur. Les personnes qui sont dans le rush, ils sont pas aptes à faire une bonne communication dans l'immédiat. Et ça, je pense que c'est important. Et encore une fois, on en revient à ces histoires que moi je trouve important, qui sont de posture, d'humilité et de communication. Quoi. Et ça, c'est vraiment très très important. Toi, René, tu veux ajouter un truc?
Moi, je dirais, c'est totalement d'accord. Hein. Surtout ne pas cacher les choses. Moi, ça m'est pas arrivé, mais par contre, j'ai eu des gens qui ont fait des erreurs parfois, et ils se sont fait trahir en plus par leur SH history. Donc, ça fout encore plus les boules, en fait, quand la personne vous dit mais non, j'ai absolument rien fait, et puis que vous voyez que en fait, dans le SH history, il y a eu une commande qu'il fallait pas. Voilà. Après, l'erreur, elle arrive à tout le monde, donc. Voilà, surtout pas la cacher, quoi.
Mais ça dépend aussi de l'ambiance dans la boîte. C'est si à chaque fois qu'il y en a un qui fait une connerie, il est mis au pilori, la fois d'après, quand tu refais une connerie, tu fais tout pour que ça se sache pas, et puis voilà. Bon, t'as le truc gentillet des croissants quand t'as fait une connerie, mais bon, ça c'est gentillet. Mais
Ouais, en fait, je pense que, alors après, c'est un peu facile, mais à un moment, c'est, oui, après, c'est aussi côté employeur de, voilà, d'accepter l'erreur. Enfin, je pense qu'on a déjà un peu, et puis à un moment, pour moi, une boîte qui te vire parce que t'as fait une erreur, alors après, on est d'accord, hein, ça dépend ce que t'as fait, mais pour moi, c'est pas, quelque part, c'est plutôt un bien parce que c'est certainement une très mauvaise boîte, quoi.
Et d'ailleurs, il y a un excellent article de blog là-dessus, c'est c'est comment j'ai été viré en 5 minutes, où en fait le mec il arrive dans la boîte et on lui file la doc du nouvel arrivé, donc on lui explique, donc lui il suit la doc, donc tu rajoutes ta virgule, tu lances cette commande, tu fais git push, tu lances cette commande, tu fais SSH machin, tu lances cette commande, puis il arrive en prod et puis il pousse le truc en prod, et en fait ça fout la base de données par terre. Et donc, il est convoqué par le chef qui lui dit « qu'est-ce que tu as fait comme connerie, c'est inadmissible, machin, etc. » Et donc, c'est ses premières journées et il est viré direct. Et en fait, la conclusion de l'histoire, c'est pas lui qui a fait la connerie, c'est tout le process, c'est toute l'organisation qui fait que ça soit possible qu'il ait pu faire la connerie et qu'il n'ait pas été accompagné. Et que, en fait, c'est encore une fois, on blâme celui qui fait la connerie et en fait, c'est pas grave. Faire des conneries, ça arrive à tout le monde. Après, il y en a qui en font plus que d'autres, mais bon, ça, c'est humain. Il y a des gens qui sont extrêmement rigoureux et qui font pas de conneries. Ça a été mon cas pendant quelques années. Et j'ai un copain qui dit régulièrement, on fait des conneries quand on commence à prendre un petit peu trop confiance en soi. Et effectivement, c'est ça. C'est quand on est vraiment sûr de ce qu'on fait, on va vite, on tape vite, hop, hop, entrée, RM-RF slash machin, entrée. Ah merde, j'avais mis un espace. Ah bon, ben voilà. Et encore une fois, c'est quand le mec qui va venir vous voir, j'ai fait une énorme connerie, aide-moi, machin, vous dites pas, mais vraiment, t'es vraiment trop con, pourquoi t'as fait ça ? C'est ok, calme-toi, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, on va tout faire pour récupérer le truc, et en fait, il faut réussir à être celui qui va garder la tête froide, parce que celui qui a fait la connerie, lui, il l'a plus. Hein, ça y est, on l'a perdu depuis longtemps. Par contre, comme il sait ce qu'il a fait comme connerie, c'est le plus à même à savoir comment on va pouvoir remontrer le truc plus rapidement. Et encore une fois, faut pas paniquer, parce que l'histoire où j'avais supprimé la base de données, j'ai tout de suite lâché le clavier et on a pu restaurer les données parce que j'avais pas redémarré le service. Parce que si vous supprimez les fichiers, que vous redémarrez une base de données, vous perdez tout. Bref.
Oui, alors, je prends la parole, parce que c'est bien beau de ne pas s'insulter, ce genre de choses, mais comment on fait pour exprimer la critique ? Parce que parfois, on doit se dire les choses. Et comment est-ce qu'on peut se dire les choses de manière professionnelle sans forcément soit vexer l'autre, soit faire attention ? Parce qu'il y a forcément des manières, peut-être, d'exprimer la critique. Comment vous faites, vous ?
Énormément de support pour tout ce qui est, donc on parle de CNV pour la communication non violente, et il y a énormément de supports qui sont en fait des vrais frameworks que vous pouvez appliquer pour améliorer votre posture et votre communication, justement, surtout quand il s'agit de passer sur des sujets délicats. Et en fait, c'est accessible. Hein, il y a plein de ressources open source. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment open source, mais en tout cas accessible gratos. Et vraiment, comme Nicolas, moi, j'encourage vraiment les gens à se baser là-dessus. Il y a aussi plein de gens qui proposent des formations plutôt sérieuses sur le sujet. Enfin, c'est un super outil pour arriver à parler, pas mettre d'ego, pas mettre d'émotion, enfin pas trop d'émotion, et réussir à développer l'empathie qu'il faut pour bien faire passer le message sans être un bourrin, quoi.
Alors, maintenant qu'on a bien parlé de communication, René, tu voulais nous parler un petit peu d'un point que j'ai cru comprendre que c'était dans le jeu vidéo que ça se passait. Je crois que ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune et que je jouais à la console, que je jetais ma mallette de rage tellement j'étais énervé. Tu voulais nous parler un petit peu du rage quit, alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais dans le milieu professionnel.
Ouais, bah en fait, c'est une anecdote qui m'est arrivée, mais après, peut-être... Enfin... Comment dire ? Je pense j'ai aussi ma part de responsabilité. En fait, ce qui s'est passé, c'est on a un collègue à qui on avait confié le suivi d'un incident, voilà, quelque chose comme ça. Et ce collègue a pas vraiment fait le suivi. Et bon, on l'a récupéré avec un autre collègue et bon, ça s'est bien passé. Mais le lendemain, on a essayé de justement lui faire passer un peu le message en lui disant tu t'es engagé à suivre le truc et tu l'as pas fait. Alors, je pense qu'on ne l'a pas bien fait, on a peut-être été maladroit à ce moment-là, mais sa réaction, m'a un petit peu perturbé, parce que voilà, il a fait le rage quit classique des jeux, quoi. C'est que, alors c'était en virtuel, hein, on était à distance, c'était en période Covid, il a coupé son téléphone il a plus du tout, on n'a plus entendu parler pendant toute la journée, quoi. C'est-à-dire, on savait pas où il était, pas ce qu'il avait fait. Voilà, donc ça a été un peu déstabilisant. Donc je me rappelle avoir échangé avec lui par SMS. Et après moi, on a discuté, je lui ai dit c'est bon, c'est un ton tact, mais évite ça dans le futur parce que c'est quand même pas super cool. Et je me suis excusé en disant que voilà, peut-être qu'on avait été maladroit. Mais voilà, c'était un truc qui m'a vraiment surpris. Et voilà, j'encourage les gens à pas forcément faire ça.
Ouais, il était très certainement très énervé et au point de plus vouloir répondre, c'est dur d'être dans ces états-là. Et encore, il est revenu, il aurait pu faire un abandon de poste comme ça. On a parlé tout à l'heure de ghosting, mais il aurait pu décider de bah, « finalement, ça ne me plaît plus, je me casse ». Peut-être, il aurait pu faire ça. En tout cas, si tu es énervé au point de faire ça, moi, je te conseille de d'écrire à quelqu'un peut-être qui n'était pas dans la conversation et de lui dire voilà, ce qui s'est passé, il y a un truc qui s'est mal passé et j'aimerais bien que tu passes le message à mes collègues que je ne veux plus leur parler aujourd'hui, mais que je vais bien. Peut-être que c'est une solution pour faire passer un message, je ne sais pas.
Ça nous est arrivé dans une boîte où j'étais, donc effectivement on était en remote, donc par l'écrit on s'est tous rapidement un petit peu trop échauffé, moi et un collègue, et je dis moi parce que j'étais probablement le premier fautif, et du coup il a effectivement dit j'en ai marre, je me barre. Et puis du coup ça aussi c'est un truc qui est important, c'est je l'ai rappelé, je lui ai dit bon écoute, on fera le point demain, effectivement, tu as raison, va faire un tour, mais je lui ai dit surtout, c'est pas grave, c'est que du boulot et c'est juste un problème de communication, on en rediscute au calme demain et puis on essayera d'arranger les choses pour tout le monde. Mais bon. Et ça, c'est parce que étant jeune, j'étais celui qui, alors je quittais pas parce qu'on était tous dans le même bureau, mais j'avais un mouvement de bras que tout le monde connaissait bien quand j'en avais marre de la discussion et de pas être écouté. Mais bon, bah voilà, j'étais un petit peu impulsif, j'ai mûri et maintenant j'essaye de faire profiter de cette expérience-là aux plus jeunes où, bah voilà, c'est pas grave, c'est que du travail et on peut discuter.
Eh ben, merci pour cette information. Bon, je crois que l'épisode a longtemps duré puisque on a dépassé l'heure encore une fois. Je vous propose qu'on clôture là l'épisode. Moi, ce que j'ai à te dire à toi, cher auditeur, si tu veux te construire une carrière tech épanouissante, en l'occurrence, j'ai fait une formation pour améliorer tes soft skills. J'ai conçu une formation justement pour te permettre de te forger un état d'esprit DevOps. Cette formation, elle s'appelle DevOps Mindset. C'est le premier lien en description. J'y ai mis tout mon cœur en la créant. C'est une formation qui n'est pas technique, c'est une formation qui est vraiment liée sur la philosophie et le mouvement DevOps. Et justement, il y a plein d'outils d'amélioration personnelle et de communication et je l'améliore en continu, cette formation. Donc, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Et du coup, je vais vous laisser un peu clôturer chacun cet épisode, nous dire un petit mot, si vous vouliez résumer un peu l'épisode, donner des conseils à notre cher auditeur ou à notre auditrice qui nous écoute, qu'est-ce que vous lui diriez et je vais commencer par donner la parole à Nicolas.
Oui, alors ben moi, c'est au fur et à mesure de la discussion, alors j'ai déjà évoqué deux, trois choses, mais ça m'a beaucoup fait penser aux quatre accords Toltec. Donc, je vous laisserai découvrir ça dans une vidéo que vous retrouverez dans les liens. Et sinon, vous pouvez rechercher sur YouTube. C'est les quatre accords Toltec racontés aux enfants. C'est une vision de la communication de manière générale qui est assez intéressante, où on vous apprend à pas tout prendre personnellement et à mieux communiquer avec les autres. Et je trouve que c'est un point de départ très intéressant pour une nouvelle communication.
Erwan, est-ce que tu veux prendre la suite pour nous donner un petit peu ton mot de clôture ?
Oui, bah, je dirais c'est pas évident d'évoluer en entreprise, d'avoir la posture juste, mais il y a des outils pour nous aider, donc comme on l'a évoqué, comme le framework de la communication non violente, qui est pas mal. Faites preuve d'empathie. un peu de bon sens et restez factuel et courtois. N'oubliez pas que vous dites merci à quelqu'un qui vous tient la porte dans le métro, donc vous pouvez faire au moins la même chose avec vos collègues. Et c'est pas une question d'être un bisounours ou gentil, juste avoir une posture correcte sera suffisante. Et si vous faites tout ça, a priori, ça devrait bien se passer.
Merci Erwan pour ces paroles pleines de bon sens. Et René, que t'évoques ce, cet épisode et comment vas-tu nous aider à conclure?
Je pense que ça fait peut-être partie des accords Toltec, je suis pas sûr, mais je pense qu'il faut pas laisser trop de frustration s'installer. C'est-à-dire, je pense qu'il faut pas hésiter justement à discuter, à communiquer, parce que c'est souvent, plus on laisse la frustration s'installer, plus on va avoir du mal à se contenir. Donc, il faut arriver à essayer d'en parler. Après, bon, on n'est pas toujours écouté, hein, mais c'est pas toujours très facile, mais voilà, essayer de trouver des solutions. Et je pense que le management en face, s'il est intelligent, normalement, il est censé aider. Et voilà.
Et moi, je vais finir, je vais me prendre un petit mot de la fin, j'en donne pas beaucoup, mais je vais finir par un conseil. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un et que c'est délicat, soyez le plus honnête et le plus transparent possible. Moi, j'ai tendance à éviter les enrobages, sans forcément être brut, hein, mais vraiment pas tourner autour du pot, être clair, être transparent. C'est comme ça que je fais, et surtout, le faire en privé. Parce que si c'est quelque chose de délicat, toujours le faire en privé, une personne, enfin deux personnes, et pas plus. Pas en réunion, pas dans un repas, non. Vous prenez la personne en privé, vous discutez avec elle et vous dites ce que vous avez sur le cœur de la manière la plus simple possible. Voilà ce que je pourrais donner comme conseil pour terminer cet épisode de podcast. Merci à vous trois pour cette co-animation de cet épisode. J'espère qu'il plaira à notre auditeur et auditrice et j'espère vous retrouver très vite dans un autre épisode de podcast.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.